J'aimerais lire un texte avec vous dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 12. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous vous êtes reconnus là ? Ok, on s'est tous reconnus. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un, s'il y en a au moins qu'un ou qu'un seul ce matin, à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen.
Alléluia.
J'aime bien parfois prendre des passages de la parole et au lieu de le lire dans le sens chronologique des versets qui nous sont donnés, de le lire à l'inverse. Avec comme verset, on va prendre ce verset 15 comme finalité au final de ce passage. Mais pour arriver à cette finalité, il y a les étapes qui précèdent. Là, la finalité, c'est vivre la paix de Christ dans un but, former un seul corps. Une église unie dans la paix. Bon, je m'attendais à un grand amen. Eh oui, une église unie dans la paix. Et pour vivre cette unité, il y a un lien qui doit, il y a quelque chose qui doit nous lier les uns aux autres. C'est ce qui nous est dit au verset 14, à savoir ce lien de la perfection qui est l'amour. Paul dira même, par-dessus toute autre chose, toutes les choses qui ont été citées auparavant, nous rappelant également quand il donne les armes de l'enfant de Dieu, etc., dans Éphésiens 6, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, etc., avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il y a des choses qui doivent prédominer dans nos vies. Il y a des choses qui doivent être mises en valeur, qui doivent ressortir de tout cela, de tous les sentiments, de toutes les choses qui sont en nous, de nos caractères, et je parle de moi là. Hein. Mais voilà, de tout cela. Mais ce qui doit ressortir là, par-dessus toutes ces choses, c'est ce lien de la perfection qu'est l'amour. Est-ce que vous vous aimez ? C'est vrai ? J'espère, hein ? Eh oui. Paul parlera de l'amour dans le chapitre 13 de sa première épître aux Corinthiens. Il dira, notamment, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est inutile. C'est vain. Paul met en avant l'importance de l'amour, comme dans le texte que nous avons lu, qui doit être là et qui doit supplanter tout le reste. L'amour qui nous vient du Seigneur. Pas un amour humain, mais l'amour du Seigneur Jésus. Manifesté parfaitement à la croix. Manifesté parfaitement en la personne de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Des fois, il y en a, j'en vois comme ça, je dis, oh, c'est fort à la batterie. La cymbale a retenti fortement. Vous savez, quand il y a eu la dédicace du temple, si vous avez mal aux oreilles déjà maintenant, je pense qu'à la dédicace du temple, vous seriez sortis en disant, mais ils sont fous. Hein? Parce qu'il y avait des centaines de trompettistes, des gens qui faisaient des cymbales, etc. Voilà, ouais, il n'y en avait pas qu'un. Mais il y avait du bruit. Alors, je ne dis pas que la présence de Dieu et forcément, et que l'esprit agit que dans le bruit. Hein, on ne se méprend pas. Mais voilà, là, quand il y a l'esprit de Dieu, etc. également, cela peut nous amener voilà, à voir l'esprit de Dieu, et bien se manifester et à se réjouir. Quand Qui a sauté de joie c'était quand dimanche, il y a deux semaines? Le 15 juillet. Franchement, je confesse. Voilà. J'ai sauté de joie. Champion du monde. Eh oui, champion du monde quand même. À 20 ans après, il y en a, ils n'ont jamais connu 98. Hein. Alors là, ça fait mal parce qu'on se dit, ouais, je suis vieux en fait. Mais champion du monde. Alors on saute, la France entière était en liesse. Dans toutes les villes de France. À Gap aussi, je ne sais pas, je ne suis pas sorti à Gap. Hein. Mais à Vennes aussi, les Vénois, hein, c'était un peu moins. Ouais, ouais. À l'EHPAD, je ne sais pas. Ouais, c'était plein, ouais. Vous savez, on a tous les images des Champs-Élysées. Et là, c'était des milliers de personnes, voire des millions de personnes. On sait faire du bruit quand c'est pour les choses du monde. Est-ce qu'on ne saurait pas parfois faire du bruit pour glorifier le Seigneur également? Amen. C'est pas juste faire du bruit pour faire du bruit. Mais que ce soit quelque chose qui ne soit pas creux, qui n'ait pas de résonance dans le cœur de Dieu. Jésus dira, ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et sa volonté, c'est de communiquer autour de nous l'amour de Christ. Amen. Et de vivre l'amour. L'amour donne de la profondeur et donne une dimension à ce que nous disons, à nos paroles. Paul dit, si vous aviez le don de prophétie, la science, les mystères et toute la connaissance, même la foi, jusqu'à transporter toutes les montagnes. Là, il faut de la foi. Parce que des fois, on a nos montagnes dans nos vies, on a du mal. Hein. J'ai du mal. Mais ce n'est pas par notre intelligence ou par notre théologie que cela pourra faire la différence dans notre vie pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est l'amour qui motivera, qui sera là comme ingrédient dans nos capacités, dans ce que nous ferons. De la même manière, ce n'est pas on distribuerait tous nos biens, on livrerait notre corps pour être brûlé, etc. Mais si je n'ai pas l'amour, tout ça, ça ne sert à rien. À rien. L'amour, bien-aimé, c'est ce lien de la perfection pour le corps de Christ. Et puis, on remonte encore. Et cet amour, eh bien, est fortement lié à, évidemment, ce qui suit après le verset 15, mais l'unité, mais également à ce qui précède. Parce que par l'amour et avec l'amour, cela nous rend capables de vivre une chose, et cette chose ce matin sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est le pardon. J'ai dit quelque chose de pas bien. Non, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, bien aimé. Je sais pas. Mais sur mon cœur, depuis un moment, j'ai à cœur qu'on puisse s'arrêter deux minutes, enfin un peu plus, hein. Mais sur le pardon. Vivre le pardon. Parce que le pardon, c'est une notion tellement simple, de manière intellectuelle, mais tellement difficile à mettre en œuvre dans nos vies. Le pardon est une notion tellement connue, mais à la fois tellement méconnue dans l'expérience de nos vies. Et pourtant, le pardon est nécessaire. Le pardon est indispensable. Parce que dans ce que nous avons lu, les sentiments qui sont en nous, évidemment, les sentiments qui sont là ne sont pas là en chacun de nous naturellement. Tout ce qui est listé pratiquement, tout nous, eh bien, c'est un don de Dieu. L'amour, les sentiments, la paix de Christ, l'unité, tout cela n'est possible que par ce que Dieu nous donnera et nous permettra de vivre. Mais ce qui nous incombe dans cette liste-là, la chose dans laquelle eh bien, cela doit venir de nous, il doit y avoir une résolution dans nos cœurs, c'est de vivre le pardon. Ça, c'est à nous que ça appartient. Ça doit venir de nous. Ça doit venir de nous. Vivre le pardon. Supportez-vous, verset 13, les uns les autres. Et je fais une parenthèse, je rappelle l'amour, parce que ce n'est pas se supporter en disant « Bon, je vais le supporter encore aujourd'hui, hein, mais bon, Seigneur, c'est pour toi, hein, Non, c'est pas ça, hein. Seigneur, il est différent, elle est différente de moi, on n'a pas le même caractère, la même vision. Mais Seigneur, c'est ton enfant, c'est mon frère, c'est ma sœur. Alors je le supporte comme elle me supporte. Et on s'aime l'un et l'autre. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et là, Paul nous amène à un comparatif, à un modèle. Le parfait modèle, cet étalon, cette référence qui doit être là dans nos vies, Christ. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On sait que Paul nous invite à être les imitateurs de Christ. Mais on doit l'imiter également dans le pardon. Se rappelle, sur la croix, alors que Jésus est rejeté des hommes, alors qu'il est, eh bien, mis sur une croix, lui l'innocent, lui qui est accusé injustement, lui qui est là et qui aurait pu, lui qui a toute autorité, qui aurait pu descendre de la croix, qui aurait pu terrasser tout le monde d'un claquement de doigts, d'une seule volonté de sa part, d'une seule pensée en lui. Mais il dira à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et de la même manière, nous voulons pardonner et se pardonner réciproquement, nous pardonner les uns les autres. Paul dira également en Romains, chapitre 14, verset 19, « Recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » À la paix, on en a parlé. Rechercher ce qui contribue à la paix, ce qui contribue à l'édification mutuelle, les uns des autres, de chacun de nous, tous ensemble, dans un corps. Et cela est possible avec le pardon. Et bien aimé, sans pardon, on ne recherche pas ce qui contribue à la paix et à l'édification. Bien aimé, je le disais vendredi soir, malheureusement et trop souvent, le pardon ou le manque de pardon empêche aux églises de grandir. On prie le Seigneur, Seigneur, sauve des âmes, voilà, donne-moi de parler à quelqu'un, d'être un bon témoin. Mais je pense, il me semble, je prêche pour moi, bien aimé, ce matin, hein. Je vise personne, je me vise moi. Et déjà dans la préparation, je peux vous dire que je me suis visé à de nombreuses reprises, pendant longtemps. Mais pour être un bon témoin, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord, à l'intérieur du peuple de Dieu, apprendre et savoir demander pardon et se pardonner? Parce que si on veut que ce lieu soit trop petit, excusez-moi pour ceux qui voilà, aiment ce lieu, hein, mais si on veut que ce lieu soit trop petit ou qu'on ouvre un autre bâtiment ailleurs, etc., si on veut que l'Église grandisse, si nous-mêmes on veut grandir spirituellement, on a besoin du pardon. On a besoin de vivre le pardon. Pas seulement de savoir ce que c'est, pas seulement de connaître cette notion, mais de le vivre. Parce que c'est ça qui fera toute la différence. Un pardon qui n'est possible que s'il y a une réelle repentance. Un pardon qui est lié à une repentance, à une prise de conscience personnelle. Et s'il y a une réelle et sincère repentance, alors le pardon est possible. Évidemment, il n'est pas question de faire du compromis avec le péché, on s'entend bien. Paul dira aux Galates, chapitre 5, verset 13, « Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Fais pas de compromis avec le péché. On n'est pas là à dire voilà, que la grâce peut excuser le péché. Non, non, non. Ça s'appelle l'antinomisme. La grâce, c'est pas « je peux faire tout ce que je veux ». Mais la grâce, c'est là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde, lorsqu'il y a une réelle repentance et un désir de suivre Jésus et d'observer ses commandements, d'observer ses instructions et les mettre en œuvre, les mettre en pratique. Jésus va donner un enseignement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18 notamment. Et à partir du verset 15, il dira, « Si ton frère a péché, Va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Bien-aimé, ce texte-là, trop souvent, il a été utilisé de manière dure, de manière rigide, afin d'asseoir une autorité humaine. Mais quand Jésus dit cela, le but du Seigneur, c'est quoi, bien-aimé, dites-le-moi. C'est quoi le but du Seigneur, là? C'est de gagner son frère. C'est ça, le but. C'est pas d'écraser. C'est pas de mettre un joug, un fardeau trop lourd. C'est pas de rejeter, mais c'est de gagner son frère. C'est de gagner son frère. Et là, jusqu'à la fin, dans le processus, eh bien, à la fin, s'il n'écoute pas, alors que l'Église soit mise au courant, etc., et que devant l'Église, etc., on dise que cet homme, que ce frère, cette sœur, soit considéré comme un païen. Mais bien aimé, le païen, est-ce qu'on ne doit pas les gagner? Le but du Seigneur, c'est pas d'écraser, c'est pas de juger. On connaît ces versets de Jean 3,16, mais le verset 17 nous dit quoi? Dieu a envoyé son Fils, pas pour juger le monde, mais pour aimer le monde. Et ces versets-là, trop souvent, ont été comme une excuse. Je dis ça parce que je l'ai vécu dans le passé, personnellement. Pour donner et donner du crédit à une autorité humaine, alors que le but du Seigneur, ce n'était pas de dire « c'est moi le chef », mais de dire « mon désir, c'est de te gagner. » Parce qu'il n'y a pas de compromis avec le péché, on est clair là-dessus, on reste dans la droiture, et le péché, il faut le dénoncer. C'est évident. Mais on ne le dénonce pas en écrasant. Mais on le reprend. On le reprend avec douceur. Paul dira aux Galates, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, et c'est là qu'on voit la spiritualité, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. De reprendre avec douceur. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre. Paul dira à Timothée, prêche la parole en toute occasion, exhorte, censure, reprend, exhorte avec douceur. Amen. Avec douceur. Il faut dire les choses. Il faut être clair avec la parole de Dieu. On ne fait pas de compromis avec le péché, mais il faut reprendre avec douceur. Parce que Jésus n'est-il pas celui qui est doux et humble de cœur? Bien-aimé, si on est dur, on sera dur avec nous. Mais si on fait preuve de douceur, alors, parce qu'on est tous faillibles, et on fait tous des erreurs, j'en fais plein, alors reprenez-moi avec douceur, s'il vous plaît. Mais si je suis dur, je n'aurai pas à m'étonner d'être pris de manière dure. Nous rappelons de ce que Jésus dira, que vous serez jugés dans la même mesure dont vous vous serez servi pour juger. Si on est doux, droit, mais dans la douceur du Seigneur, dans l'amour du Christ, alors également, nous pourrons connaître la douceur des autres. Mais il dit ça à ceux qui sont spirituels. Parce que le problème est trop souvent, et je vous rappelle à chaque fois, ayez ça vraiment en filigrane en vous, mais je prêche à moi ce matin. On reprend de manière charnelle. Les émotions prennent le pas. Alors on reprend de manière charnelle. Mais si, dans la présence du Seigneur, on cherche sa face, on s'humilie, on prie. Si on se détourne déjà nous-mêmes de nos mauvaises voies, alors Dieu exaucera les prières et guérira. Guérira le pays, mais guérira également les cœurs de ceux qui sont éloignés, de ceux qui sont brisés. Un seul but, qui n'est pas de briser, mais qui est de gagner son frère, sa sœur. Bien-aimé, combien de fois faut-il pardonner? Eh ouais, ça fait combien là, les matheux là? 490 fois. 7 fois 7, hein, 49, on rajoute un 0. 490 fois. J'avais déjà dit ça, mais quand on fait le calcul sur une journée, et là, Pierre, il posait la question, toujours dans Matthieu 18, hein, à la suite de ce qu'on vient de dire, là, si ton frère a péché, va, reprends-le. Mais il dit, combien de fois dois-je pardonner à un frère, à mon frère? Donc, on parle bien à une seule personne. Donc, on multiplie ça par le nombre qu'on est, hein, ce matin. Dans une journée, on peut imaginer, en moyenne, parce qu'il y a des gros dormeurs, et voilà. Mais si on dort 8 heures par nuit, sur le reste de la journée, quand on regarde ce 70 fois, 7 fois, ça fait un pardon toutes les 2 minutes. Par personne. Donc au final, alors que Pierre, il dit, il pensait franchement avoir la bonne note du professeur. Est-ce qu'il faut pardonner 7 fois? Et là, Pierre, franchement, il se dit, il va dire, bah oui, Pierre, t'as raison. T'es le meilleur. Et là, Jésus, il dit, mais non. Pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. Au final, il est en train de lui dire, il faut que tu pardonnes tout le temps. Et à tout le monde. Il faut que tu pardonnes tout le temps et à tout le monde. S'il y a une réelle repentance. S'il y a une repentance sincère. Parce que s'il n'y a qu'une repentance superficielle, le pardon est difficile. Il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience, on va y revenir. Pour vivre le pardon, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas comme, je le disais, mais ça ne vient pas comme en ouvrant un Kinder Surprise, quoi. Ce n'est pas un cadeau comme ça qui arrive, ah ben voilà, ça y est, je vis le pardon. Non. Je rappelle cette pensée de l'esprit dimanche dernier qui a été donnée, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ceux qui se font violence. Et Paul dira, je ne pars pas à l'aventure comme ça, comme battant l'air. Mais je me fais violence à moi-même. Je me fais violence à moi-même. Pas question d'être violent envers quelqu'un d'autre. Je rappelle l'amour et la douceur. Hein. Et on n'impose pas les mains avec, précipitation, hein, mais voilà, fais attention. Mais il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts et se lever pour aller voir son frère, sa sœur, avec qui il y a une dissension. Parce que celui qui doit se lever, ce n'est pas seulement celui qui a offensé, mais c'est aussi celui qui est offensé. Ça va dans les deux sens. Je vous donne les versets pour cela. Celui qui a offensé. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens, comme si on avait oublié, hein, mais que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est-à-dire que tu l'as offensé, ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ça, c'est la personne qui a offensé l'autre. Mais celui qui est offensé, Jésus dira dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon. Il doit être vécu, bien-aimé, et c'est pour ça que je tenais à prêcher avant la louange et la Sainte Cène. Avant que nous puissions prier, apporter notre reconnaissance au Seigneur, nos actions de grâce, avant d'élever notre voix et d'exprimer à Dieu la louange et l'adoration de nos cœurs. Avant cela, je vous en conjure, s'il y a un problème avec quelqu'un, que vous soyez offensé, ou étant celui qui a offensé, ou celle qui a offensé, allez voir votre frère. Allez le voir. Allez voir votre sœur. Allez la voir. c'est pas seulement à l'autre de venir. Vous savez ce que c'est ça? C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et on pourra me dire ce qu'on veut, hein. C'est de l'orgueil. Mais il doit y avoir le désir de pardonner, de vivre le pardon. Parce que Dieu aura du mal à agréer une offrande. Ce qu'il dit, laisse là ton offrande à l'autel. Laisse-la là. Ne la dépose pas tout de suite, ça ne sert à rien. Va d'abord te réconcilier, et ensuite viens présenter ton offrande. Viens présenter ton offrande. J'ai vécu, alors je ne sais pas, j'espère que je ne me trompe pas, hein, Emmanuel, tu me diras, hein, mon épouse, mais Dieu m'a fait une grâce particulière, je ne suis pas rancunier. Et j'oublie. Et des fois, parce que oui, ça arrive, des fois, on n'est pas d'accord avec mon épouse. Vous, ça ne vous arrive jamais, mais nous, ça nous arrive. Et je ne sais pas pourquoi, lorsqu'il est question des enfants, souvent, c'est, hein, c'est là que ça boue rapidement, là. Mais, on en parlait hier. Mais, des fois, je suis là et je me dis, mais pourquoi on s'est disputé, au fait? Et, alors, je ne suis pas rancunier parce qu'au final, j'oublie et j'en veux pas. Mais j'ai un problème, c'est que je suis orgueilleux. Alors j'essaie de tourner les choses pour pas que la faute me retombe dessus. J'ai un certain talent pour cela. Bon, je pars bientôt, donc comme ça, moi, pour dire, c'est bon débarras parce que celui-là, on ne peut plus, quoi. Mais je suis pas rancunier et j'oublie. J'oublie bien des choses parfois, surtout les choses mauvaises. Merci Seigneur. Mais à un moment donné, dans une précédente église où j'étais, je sentais qu'il y avait un problème avec un frère dans l'église. Un ami. Et pendant les chants, j'étais travaillé dans mon cœur. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer à faire semblant. Je ne peux pas continuer à faire style de rien. À faire comme si tout allait bien. Il fallait, j'étais poussé par le Saint-Esprit. Il faut être sensible au Saint-Esprit, bien-aimé. Hein? Eh ouais. Et là, j'étais poussé par l'Esprit à aller voir mon frère et à lui présenter mes excuses. Parce que j'avais été dur. Parce que j'avais eu des paroles dures. Et là, on y va. Je sais pas, ça vous est déjà arrivé d'aller demander pardon à quelqu'un? Enfin, pas quand on est enfant, hein. Quand on est adulte. Parce que quand on est enfant encore, ça va. Mais quand on est adulte, bon, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais on y va, pas à reculons, mais on dit comment il va me recevoir, quoi. Alors on y va quand même. Il faut du courage. Il faut faire des efforts. Je suis allé voir mon frère, qui s'appelle Vincent. Je dis, écoute Vincent, je t'ai dit ça, j'aurais pas dû, je me suis laissé emporter, c'était pas spirituel du tout, je te demande pardon, je peux pas continuer à louer le Seigneur, faire semblant, à chanter, alors que je sens que t'as quelque chose contre moi, alors que je me sens pas bien. Il m'a dit, mais j'avais oublié, t'inquiète pas. Ça fait du bien ça. Ça fait du bien. Père et mère, parents, est-ce que parfois, il y a des enfants, bouchez-leur leurs oreilles, sinon... Est-ce que vous êtes allé des fois vous excuser auprès de vos enfants? J'ai eu une éducation assez rigide, assez dure, et avec ma fille, j'ai transposé cela au début. Et j'étais très dur. Très dur. Et bon, c'était avant qu'il y ait une loi, il paraît, maintenant, je ne sais pas quoi. Donc maintenant, ça va. Mais j'avais la main dure. Et j'en prenais pas conscience, j'en prenais pas conscience. Là, je vous dis tous mes défauts, hein, franchement. Hein, alors là... Après, chacun passe ici et donne les siens. Non, je rigole. Mais j'étais là et je l'avais reprise de manière tellement dure. Marquée dans son cœur et sur sa chair. Et là, mais on m'a dit, mais t'es un grand malade. Et là, j'ai comme ouvert les yeux. Je suis allé m'excuser auprès de ma fille. je suis allé m'excuser. C'est important. N'irritez pas vos enfants. Père, n'irritez pas vos enfants. C'est pas biblique, ça ? De peur qu'un jour, ils vous le reprochent. Savoir s'excuser à ceux qui nous sont égaux, mais également peut-être à ceux qui nous paraissent peut-être inférieurs. Mais quand on a commis une faute, il faut aller demander pardon. Il faut apprendre et savoir demander pardon. Parce que ne pas demander pardon, c'est une preuve d'orgueil. Et l'orgueil, bien aimé, précède la chute. Précède la chute. Savoir demander pardon. C'est bon, vous pouvez déboucher les oreilles de vos enfants. Mais savoir demander pardon, vivre le pardon, faire des efforts pour vivre le pardon. Parce que si nous pardonnons, Dieu nous pardonnera. Mais si nous ne pardonnons pas, on l'a lu déjà, mais on l'a chanté. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris ce chant. Le Notre Père. On connaît. Le Seigneur Jésus nous donne cette prière comme un modèle de prière, pas comme une prière mécanique. Je ferme la parenthèse. Mais c'est un modèle de prière pour nous montrer comment il faut prier, de quelle manière, comment articuler nos prières, etc., dans l'action de grâce, dans l'intercession, dans la requête, etc. Mais là, à un moment donné, il y a cette parole qu'on connaît tous, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et un peu plus loin, Jésus leur dit, si vous pardonnez aux hommes, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Bien-aimé, ce n'est pas juste pour le plaisir de s'humilier qu'on va demander pardon. C'est parce que c'est, il en va de notre salut. Il en va de notre salut. Quid de celui qui ne demande pas pardon? La mort. Bien-aimé, c'est important cette notion-là. On la connaît, mais est-ce qu'on la vit? Est-ce qu'on l'expérimente? Est-ce qu'on le met en œuvre en nous? Mais pour vivre le pardon, il faut faire des efforts. Et il faut se lever. On a pu voir cette semaine l'importance de se lever. À travers de ce verset du prophète Ésaïe, chapitre 60, verset 1er, « Lève-toi, brille, car ta lumière et la gloire de l'Éternel se lèvent sur toi. » On veut voir la gloire de Dieu. Amen. On veut voir la gloire de Dieu. Mais pour ça, il faut briller. Mais on ne brille pas en étant immobile. Regardez une flamme. Elle est tout le temps en mouvement. Et le seul moment où elle est immobile, c'est parce qu'elle est éteinte. Il n'y a plus rien. Mais on doit être en mouvement pour briller. Et on avait pu voir, notamment, que pour se lever, qu'il était important de se lever, de se faire violence, et d'aller de l'avant, et d'entrer dans les voies, dans les œuvres, dans les projets que Dieu avait formés pour chacune de nos vies. Mais que pour se lever, il fallait renoncer à bien des choses. On avait pu voir qu'il fallait renoncer notamment à l'amour du confort du monde, qu'il fallait renoncer au découragement, ne pas rester dans le découragement, même si on connaît cette émotion humaine, mais ne pas laisser les difficultés nous dominer, mais saisir par la foi la victoire et dominer la difficulté. Ne pas rester dans le découragement, mais trouver en Jésus le parfait encouragement, le puissant encouragement. Se lever en renonçant à nos succès passés, afin de vivre des bénédictions spirituelles nouvelles. Vous voulez vivre des bénédictions nouvelles?
Oui.
Eh oui, hein. C'est vrai que c'est important. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a déjà vécu. On ne peut pas se satisfaire, c'est bon, là je suis bien, je suis tranquille, je suis en place. Spirituellement parlant, je suis en place. Non, non, il faut grandir. Parce que ça, c'est preuve d'immaturité. Mais il faut grandir. Ne pas surfer sur les victoires passées, mais aspirer à en vivre de nouvelles. Mais on avait vu, au travers du Fils perdu, que se lever, et que pour se lever, il fallait rejeter l'orgueil, et il fallait venir demander pardon. Vivre le pardon. Expérimenter le pardon. Et dans cette parabole, dans l'évangile de Luc, chapitre 15, on voit les bienfaits du pardon, mais également les méfaits du manque de pardon. Bon, j'aurais pas dû mettre ce qu'il y a en dessous en noir, vous ne le lisez pas encore. Hein. Les bienfaits du pardon, mais les méfaits du manque de pardon. Les bienfaits du pardon au travers de ce que le Père va expérimenter, va donner, va accorder à son Fils retrouvé. Mais les méfaits du manque de pardon au travers de l'expérience du Fils aîné qui ne voudra pas pardonner. Qui ne voudra pas pardonner. Est-ce qu'on peut lire le texte? Vous voulez bien? Luc chapitre 15, il me semble que c'est important. Luc chapitre 15, verset 11. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. » J'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui était mort, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs. Et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Il faut se lever pour aller vers celui, celle avec qui on est en froid. C'est une action qui vient de celui qui est offensé, nous l'avons dit, mais également de celui qui a offensé. Le fils revient de son égarement. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est le père qui, au final, il est déjà debout. Parce qu'il regarde. Et il attend qu'une chose, c'est de voir son fils revenir. Le premier qui se lève, ce n'est pas le fils repentant. C'est celui qui a été offensé. Et dans notre conception humaine, on dirait l'inverse. Ce n'est pas à moi de me lever, c'est moi qui a été offensé, c'est à l'autre. Mais je crois que ce qui sera une preuve de spiritualité et de maturité spirituelle, c'est que même en ayant été offensé, nous nous levons le premier. Afin de vouloir, désirer, être résolu à vivre le pardon. Alors, il attend et il regarde. Et là, bien son fils vient. Mais ce n'est pas le fils qui voit le père en premier. C'est le père qui voit le fils. Et parce qu'il le voit, il ne va pas lui tourner le dos. Il ne va pas se dire, je vais le faire un peu languir, ça lui apprendra. Non, il court. Il va vers lui. Il saute dans ses bras, il le prend et il l'enlace. Et il l'embrasse. Il ne laisse même pas terminer le fils dans ce qu'il voulait dire. Mais le père voit son cœur humilié et repentant. Une réelle repentance. Parce que la réelle repentance, ce n'est pas seulement revenir en disant « c'est bon, je suis là, je reprends ma place ». Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, une réelle repentance, c'est quand on fait preuve d'humilité et d'humiliation personnelle. Parce que le fils, il ne vient pas en disant « je reprends ma place du fils ». Mais père, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il est prêt, bien-aimé, est-ce qu'on comprend cela? Il est prêt à vivre quotidiennement avec le regard des autres en étant celui qu'on appellera le fils déchu. Il est prêt à vivre ça tous les jours de sa vie parce que ce qui est le plus important pour lui, ce n'est pas le regard des hommes. Ce qui est le plus important pour lui, ce n'est pas l'humiliation personnelle. Ce qui est le plus important pour lui, ce n'est pas d'être rétabli. Ce qui est le plus important pour lui, ce n'est pas ce que le Père pourrait lui donner. Ce qui est le plus important pour lui, c'est de retrouver une communion avec le Père. Amen. C'est ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important pour lui, c'est de retourner à la maison. Et là, on voit la réelle repentance. Ne pas seulement revenir parce que ben, j'avais plus rien, alors je reviens. J'avais pas le choix de revenir. J'étais contraint de venir. Alors maintenant tu me rétablis. C'est pas ça, ça c'est pas la repentance. Hein. Mais quand il y a l'humilité, l'humiliation personnelle, et même étant prêt à vivre tous les jours en étant le dernier, le plus petit, le rejeter, mais en étant seulement dans la présence du Père. Là, on voit qu'il y a une réelle repentance. Parce qu'il dira, je ne suis plus digne, comme ce centenier, qui dira, mais je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, dis un mot de ta part suffit. Mais la repentance, c'est prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on est vraiment, et de s'abaisser. Parce qu'il s'abaisse, mais le Père, il ne va pas l'écraser encore plus, mais il va le rétablir. Parce que justement, il voit la vraie repentance, la sincérité de sa repentance dans son cœur. Alors, il le rétablit parce qu'il met en œuvre ce que Jésus aura pu dire, « Celui qui s'abaissera sera élevé, et celui qui s'élèvera sera abaissé. » Mais là, le Fils, il s'abaisse, il se rabaisse. Il s'écrase, mais le Père, parce qu'il l'aime, parce qu'il a compassion de lui. Nous l'avons lu, c'est ce que dit ce texte. Et le Seigneur n'a-t-il pas eu compassion de nous, bien-aimés? N'a-t-il pas compassion de chacun de nous? N'est-ce pas par compassion qu'il est allé jusqu'au bout? Sachant que nous ne pouvions pas aller jusqu'au bout, qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Mais il a eu compassion de nous. Et si le Seigneur, si Jésus a eu compassion de nous, ne devrions-nous pas avoir compassion de ceux qui viennent avec une réelle, une sincère repentance? Alors, il faut être spirituel et juger de la sincérité de la repentance. Mais s'il y a une réelle repentance, on le rétablit. Alors, je fais une parenthèse, mais il le rétablit, mais il ne lui donne pas plus. Que le frère hein, est né. Est-ce qu'on pourrait penser que oui? Parce qu'il donne un anneau, ok, comme le frère, la marque de la famille, la filiation au père. Il donne des souliers, voilà, parce que ce n'est pas un esclave, mais c'est l'enfant du père. Mais il dit, apportez-lui la plus belle robe. Est-ce que ça veut dire qu'il y a du favoritisme? Quand on regarde littéralement ce qui est écrit, la pensée de Dieu, Cela nous amène à considérer que le Père veut redonner de l'honneur au Fils retrouvé et lui redonner une robe qui est liée à son rang, à l'instar du frère aîné, qui l'a déjà. C'est donner une robe qui était comme celle qu'il avait auparavant. C'est retrouver la position, la condition qui était la sienne avant de s'éloigner du Père. On redonne la condition. Je ne dis pas la fonction, mais la condition, la position. Et il n'y a pas à avoir de jalousie. Et pourtant, le frère va être jaloux. Et il y a ce verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Verset 28. Si, et le premier contraste est là, si vivre le pardon libère, si vivre le pardon nous permet de connaître la joie, comme le fils retrouvé a connu la joie avec son père, avec les gens de la maison, au moment du repas, lorsque le veau gras a été tué. Là, le pardon amène la joie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes, ceux qui se croient justes et qui n'ont pas besoin, qui pensent ne pas avoir besoin de repentance. Et pour celui qui se repent, il y a une réelle joie dans le ciel. Bon, vous ne voulez pas être dans la joie ce matin. Il y a la joie dans le ciel. Autant le pardon amène la joie, autant le manque de pardon amène la colère. Et le fils aîné est rempli de colère. Vous n'êtes jamais en colère? Ça doit être que moi. Mais on ne va pas dire en colère, irrité, agacé. Ah voilà, agacé. Le mot littéral, c'est la même chose. L'apôtre Jacques pourra dire, chapitre 1, verset 20, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que le problème, il est là. C'est que le fils aîné, quand il arrive, en fait, ce qu'il dit, c'est quoi? Ben, c'est pas juste. C'est pas juste ce qui se passe. C'est pas normal. C'est injuste. Il manquait la coquille de Calimero et c'était bon. Hein? C'est trop injuste. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe là, c'est pas ce que j'aurais voulu. C'est pas ce que. Et pourquoi on ne le fait pas pour moi? Et le problème, c'est que le manque de pardon est fortement lié au fait qu'on s'attache trop souvent à notre propre justice qu'à la justice de Dieu. Et pourtant, Jésus le dira. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pas la justice, pas une justice, mais sa justice. Sa justice. Et là, le frère, pourquoi il trouve ça trop injuste? Parce qu'en fait, il place sa joie, sa satisfaction personnelle, dans ce qui le met lui au centre. Et là, on touche du doigt le propre de l'homme, l'égocentrisme. L'égocentrisme. Mais ce n'est pas pour moi qu'on fait la fête. Trop injuste. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas moi qu'on honore. Pardonne, Seigneur. Non. Eh oui, mais parfois, on n'est pas comme ça. Bon, je ne sais pas, il n'y a que moi. J'ai l'impression que je suis le plus mauvais de tout le monde, certainement. Hein. Mais j'ai l'impression que je prêche vraiment que pour moi ce matin. Mais c'est pas normal ce qui se passe. Et le père est en train de lui expliquer que mais il faut se réjouir et honorer ce qui doit nous pousser à nous réjouir, c'est-à-dire quand un pécheur se repent. Quand il y a une réelle repentance. La différence entre une joie charnelle, une joie spirituelle, c'est l'intérêt que nous porterons à nous-mêmes et aux autres. quand on regarde nos propres intérêts, on reste dans une joie charnelle et on reste égocentrique. Alors, tout nous semble injuste quand ce n'est pas nous qui sommes mis à l'honneur. C'est ce qui se passe pour le frère aîné. Il y a eu plusieurs situations dans la parole de Dieu, très rapidement, mais Ésaü avec Jacob va concevoir de la haine dans son cœur. Pourquoi ? Rappelez-le-moi. Allô ? Quelqu'un ? Parce que Jacob a acquéri le droit d'aînesse et qu'il a volé la bénédiction. C'est trop injuste. Pas normal. C'était pour moi. Ouais, mais quand on lit bien le texte, alors oui, Jacob a usurpé, a péché, etc. Mais à la base, de la base, de la base, Genèse 25, verset 34, lorsque Ésaü vend son droit d'aînesse, donc avant le vol de la bénédiction, hein, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Ah, ça c'est pour lui. On parle d'égocentrisme encore. Hein. Ça réjouit son ventre, ça réjouit son cœur. Mais après, il dit quoi ? C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. La base de la base de la base, c'est qu'Ésaü a méprisé ce qui était à lui. Et il l'a vendu pour un plat de lentilles. Parce qu'il avait besoin d'une joie éphémère, d'un moment. Alors, après, il crie au scandale. C'est trop injuste. Les frères de Joseph, avec Joseph. Nous est dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'était même plus un ami, c'était même pas un frère, c'était même plus un ami. Il y avait de la haine. Alors, pourquoi Jacob aimait plus Joseph? Quand on lit les chapitres précédents, Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel. Et quand il va voir Laban, c'est pour avoir Rachel, pas Léa. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait les yeux délicats, il y avait un problème là. Mais vous avez dit que, en tout cas, Jacob, il aimait Rachel. Et Rachel a été belle de figure et belle de taille. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, belle de taille. Hein, parce que moi, je ne dois pas être très beau de taille, en tout cas, je ne suis pas très grand. Mais elle était belle de taille, belle de figure. Et il nous est dit qu'il va travailler pendant 7 années pour Rachel. Et là, alors ceux qui je ne sais pas hein, s'il y en a qui fréquentent ou quoi, mais... Et là, ces années furent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Donc si on est éloigné, si on ne peut pas s'unir pendant quelques années, eh bien ça doit être quelques jours quand on s'aime. Hein, hein? Bon, apparemment non. Mais bon, Jacob aimait Rachel. Comme Rachel va mourir au moment où elle va mettre au monde Benjamin, cet amour va se transposer au fils aîné de Rachel, Joseph. Joseph. Alors, les 10 frères de Joseph vont avoir de la colère et de la haine contre lui. Et on sait ce qui va se passer. Remarquez que la colère, le manque de pardon, dans tous ces exemples, sont vécus dans le cercle familial. Et malheureusement, trop souvent, on voit des familles déchirées à cause d'un manque de pardon. Avons-nous oublié ce que nous sommes ? Ou Paul dira que nous ne sommes plus des enfants de la colère. Et par celui qui nous a aimés, nous sommes enfants de Dieu. Je liste rapidement, là, parce qu'on va louer le Seigneur. Mais... Autant le pardon nous amène à l'unité, comme le fils retrouvé avec le père et les gens de la maison, autant le manque de pardon amène la division. Il se met en retrait, il se divise, il se sépare. Rappelez-vous ce qui se passe entre Lot et Abraham à cause des querelles entre les bergers d'Abraham et de Lot. La querelle amène jamais rien de bon. Le proverbe, on le donnait, je le disais il n'y a pas longtemps, mais le proverbe 17, verset 14 dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. » Alors avant que la dispute s'anime, retire-toi. Paul dira à Timothée, dans sa deuxième épître, il me semble, au chapitre 2 et au verset 23, « Repousse les discussions folles et inutiles. » Parce que ça amène que de la division. Ça amène de la division. Ça amène pas l'unité, les querelles. Il faut rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et je termine, mais autant le pardon amène la bénédiction, autant le manque de pardon nous éloigne de la bénédiction. Quand Job va être rétabli dans son état initial et va même être béni au double de ce qu'il avait auparavant, c'est à quel moment ? C'est quand il va prier pour ses trois amis. Une prière sincère, donc forcément, parce qu'il les a pardonnés. Ces trois amis qui ont été plus source de culpabilité qu'autre chose. Mais parce qu'il les a pardonnés et parce qu'il a prié, on ne va pas dire pour ses ennemis, pourtant Jésus nous invite à cela, priez, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis. Mais là, Job voit ses trois amis arriver. Il ne va pas leur dire, bah maintenant débrouillez-vous. Mais il va prier pour eux parce qu'il les a pardonnés. Et parce qu'il a fait ça, parce qu'il les a pardonnés, alors il va être béni. Alors il va être béni. Bien-aimés, vous voulez être bénis? Alors pardonnez-vous réciproquement. Eh oui, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Je termine avec ce psaume, le psaume 133. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne, sur les montagnes de Sion, car c'est là, dans l'unité, là où il n'y a pas de division, dans l'amour, dans la paix, dans le pardon, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Alors maintenant, bien-aimés, on va louer le Seigneur. Ne prenons pas, n'apportons pas notre offrande si nous savons qu'il y a quelque chose avec un frère, avec une sœur, mais pardonnons-nous. Demandons pardon. Et même, je ne sais pas mais ou si vous le faites après ou avant, mais si vous voulez le faire pendant ce moment, s'il y en a qui se lèvent pour aller voir un frère, une sœur, on n'est pas là à regarder, on ferme les yeux, on loue le Seigneur et on adore celui qu'on est venu adorer ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble?